On va partager quelques versets dans l'Écriture ensemble, s'il vous plaît. Et on va faire plusieurs lectures, plusieurs passages différents. Le premier dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1, chapitre 1er, et à partir du verset 1er. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 1er, verset 1er. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le corps est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Amen. Dans l'épître de Paul aux Romains, il y a un texte qui est un petit peu le pendant de ce qu'on vient de lire là, qui se trouve au chapitre 3, Romains chapitre 3 et verset 10, Romains chapitre 3, du verset 10 au verset 12. Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et un petit peu avant, dans cette lettre aux Romains, au chapitre 1er, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16, ça, c'est une parole excessivement encourageante, il est dit ceci, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. » Savez-vous quelle est la différence entre un optimiste et un idéaliste? Quelle est la différence? Tout simple. L'optimiste, il espère. Et l'idéaliste, il rêve. Idéaliste, il rêve. Ça ne s'accomplira jamais. C'est un idéaliste. L'optimiste, il espère. Parce qu'il se dit, ça va arriver, je crois que ça va arriver, ça va. Oui, d'accord. Maintenant, un peu plus compliqué, peut-être pas. Quelle est la différence entre l'ambitieux et le prétentieux? Comment? Ouais. Eh, t'es pas loin de la réponse, hein? Ouais. Ça ressemble. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ça, c'est qui? Le prétentieux. Ouais. Réussir. Ouais. Ouais, ouais, ça c'est l'ambitieux, ça, ou le prétentieux. Alors, je vous ai trouvé une formule, vous en faites ce que vous voulez. Quand l'ambitieux met tout en œuvre pour atteindre son but, le prétentieux ne fait rien car il croit qu'il l'a déjà atteinte. Ouais, ça vous va? Ça revient au même, hein? C'est ce que tu disais. L'ambitieux, il fait tout pour y arriver, et le prétentieux, il croit qu'il y est déjà arrivé. Sauf qu'il est arrivé nulle part, parce qu'il ne suffit pas de dire. C'est un fameux jeu que l'on pratique avec des enfants. où deux tribus s'affrontent. Il y a les yakas et les autres, c'est les faucons. Il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela, faucon fasse, faucon. Mais en fait, entre le dire et le faire, des fois, il y a de la marge, bien évidemment. Alors, dans le texte que nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, il faut reconnaître que Ésaïe dresse un tableau qui est assez sombre de son époque. Apparemment, la ville était plutôt prospère à ces époques-là, ça c'est l'histoire qui nous le dit, mais Dieu a un regard qui est complètement différent. Finalement, je crois que le plus important, ce n'est pas l'image que j'ai de moi-même, ce n'est pas l'impression que j'ai de moi qui compte, mais c'est qu'est-ce que Dieu voit quand il me regarde. Ça, ça a certainement plus de poids, plus de valeur, si Dieu pouvait nous dire exactement comment il nous voyait. Et il est évident qu'à cette époque-là, du temps d'Ésaïe, être riche, ça pouvait sembler être un signe de bénédiction. Je suis riche, donc Dieu me bénit. Ce n'est pas évident. Il y a des riches, très méchants, en ce qui concerne la morale, en ce qui concerne la moralité, en ce qui concerne la droiture et en ce qui concerne, on va dire, la conscience morale. Alors ils sont aux antipodes de tout ce qui est sain, ne serait-ce que dans la pratique, tout ce qui est pur, mais très loin de ça. Mais ils sont excessivement riches, parce qu'ils ont réussi dans les affaires, quelquefois peut-être en trichant, en mentant, en volant, etc. Donc être riche, ce n'est pas forcément un signe que Dieu approuve ce que l'on fait, mais dans ce contexte très religieux, ça donnait cette impression-là. Je suis riche, donc Dieu est d'accord avec moi. Et Dieu va leur montrer que ce n'est pas exactement ça. Parce qu'être prospère, ce n'est pas forcément un signe de bonne santé morale et spirituelle. D'ailleurs, dans ce livre d'Ésaïe, un petit peu plus loin, Dieu en donne l'explication. Il va être assez dur avec ces gens-là. Ils avaient une pratique religieuse, ils exerçaient assez facilement leur dévotion. Mais voici ce qu'il est dit au chapitre 1er, au verset 13. C'est Dieu qui parle, en somme. Et qu'il leur dit, « Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Mon âme est, du verbe haïr, vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. » Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, et la raison, elle est là, vos mains sont pleines de sang. Dieu est en train de leur dire, mais arrêtez d'être hypocrite, de faire semblant de pratiquer, de faire semblant d'être bien, alors que je sais exactement de quel esprit votre cœur est animé. Ça, c'est quelque chose qui devrait nous faire réfléchir, me semble-t-il, parce que, dans le fond, c'est un défaut qui est assez récurrent, qui revient très très souvent. D'ailleurs, si on fait un bond en avant, on va faire un bond de 700-750 ans, on arrive au temps de Jésus. Et du temps de Jésus, Jésus s'adresse à des gens très religieux, mais très remontés contre la révélation de l'Évangile. C'est assez surprenant d'ailleurs. Et si on continue encore quelques années, on s'aperçoit que l'apôtre Paul, lui aussi, est très circonspect devant ce que ces juifs croyants disent pratiquer et la réalité. Dans une lettre que l'apôtre Paul a rédigée pour les chrétiens de l'église qui se trouvait à Rome, il dira ceci, je vous le cite au chapitre 9 et au verset 3, « Je voudrais moi-même être maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est béni au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Je voudrais moi-même être séparé de Dieu pour que toute ma famille entre dans la présence de Dieu. Mais manifestement, ça ne sert à rien, son sacrifice ne servira à rien, parce qu'il y avait un obstacle qui était de taille. Au chapitre 2, il a bien analysé la situation, l'apôtre Paul, et il dira ceci, « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te reposes sur la loi, et qui te glorifie de Dieu, qui connaît la volonté de Dieu, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, et c'est là que ça trébuche, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre un adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. En fait, il disait et ne faisait pas. Il donnait l'apparence d'être bien, mais quand on examinait, quand on passait ça au laser, on se rendait compte qu'à l'intérieur, c'était moisi, c'était mauvais, ça sentait mauvais, c'était pas bon. Alors, bien évidemment, on a basculé de l'ambition à la prétention, très certainement. De quelqu'un qui espérait, on est devenu un rêveur, un idéaliste. Et on a pensé que pratiquer devrait largement suffire. J'aimerais cet après-midi que vous sortiez de ce lieu, non pas en disant « j'ai une bonne religion et je la garde », mais j'aimerais que vous quittiez ce lieu en disant « j'ai rencontré Jésus et lui, je le garderai ». Parce qu'il y a une grosse différence entre l'apparence et la réalité. Et que Dieu nous garde de tomber dans une prétention quelconque, de se dire « ma religion, c'est la meilleure, ce que j'ai appris, c'est le meilleur enseignement que n'importe qui aurait pu entendre, etc. etc. » Ce qui importe n'est pas dans ce que je crois avoir, parce que quelque part, j'ai envie de dire que savoir ne suffit pas. Il faut quand même comprendre, parce que vous pouvez savoir tout un tas de choses sans forcément bien les avoir comprises, et surtout sans savoir comment les pratiquer. Il faut comprendre, il faut essayer de comprendre, bien évidemment. On raconte l'histoire de cet homme à qui on avait offert une moto. Il n'avait jamais fait de moto de sa vie, jamais. Et on lui avait offert une belle moto. Et puis, un jour, il a décidé de faire de la moto. Alors, on l'a averti, on lui a dit, écoute, tu devrais prendre un petit peu des leçons parce qu'il y a un embrayage, il y a des vitesses, etc. Ce n'est pas évident, hein. Non, mais j'ai lu le mode d'emploi, ça c'est simple. J'ai fait du vélo, je saurais faire de la moto. Alors ils ont dit, non, ne fais pas ça, c'est quand même risqué, etc. Ni une ni deux, il était têtu. Hein. Il a pris la moto, il dit, mais je sais. Il n'a pas voulu comprendre qu'il fallait apprendre. Il dit, non, je sais. Il a pris la moto, évidemment, il n'avait pas fait 100 mètres qu'il était dans le fossé. Donc il ne s'est pas fait trop mal. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené la moto, il l'a mis dans le garage, il a pu toucher. Puis voilà qu'un jour, un de ses amis lui rend visite, et tout en parlant, il se promène, et puis il passe à côté du garage, et hop, il voit une moto. Il dit, ah, tu as de la moto, tu fais de la moto? Il dit, non, je ne fais pas de moto, moi. Ah bon? Et puis il voit une belle moto, mais pleine de poussière. Il dit, mais c'est dommage, lui, c'était un passionné de moto, lui. Il voit cette moto-là, il dit, mais c'est dommage, pourquoi tu laisses la moto ainsi, mais tu devrais l'utiliser. Non, de toute façon, la moto, c'est pas bien, c'est pas... Enfin bref, il décriait cette moto-là, elle n'est pas sûre, elle n'est pas bien, incontrôlable, etc. Et il lui a posé la question, il lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Et il lui a expliqué qu'il en avait fait une fois et qu'il était parti dans le champ. Et l'autre lui a dit, mais comment ça se fait? Alors il a essayé de la démarrer, il a fallu un certain temps, puis finalement il a réussi à la démarrer, il a regardé, je peux faire un tour? Oui. Il a fait un petit tour dans la cour, il dit, écoute, il n'y a pas de défaut, tout marche bien. Et l'autre dit, non, elle n'est pas bonne, il y a un défaut, c'est sûr. Il n'avait jamais appris, il était parti dans le fossé, ce n'était pas de sa faute, hein. Vous l'avez compris, c'est de la faute de la moto. Quand on ne sait pas faire, on accuse toujours les autres, forcément. Un jour, Dieu a béni un homme au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Franchement, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et j'ai envie de dire que Dieu ne fait pas de préférence, et dans le fond, il nous bénit, vous, moi, il nous bénit de différentes manières, de différentes façons. Cet homme a été roi, et quel roi! Et d'ailleurs, l'histoire a gardé son nom. On l'appelle de deux noms différents, mais c'est la même chose selon la traduction que l'on utilisera. Soit vous avez entendu parler de lui sous le nom de Nabucodonosor, soit Nebuchadnezzar, c'est le même. D'ailleurs, il y a ce fameux tsar, et on n'est pas loin de la Russie, avec ces fameux tsars de Russie, Nebuchadnezzar. Quelqu'un qui a eu un empire exceptionnel. Et je voulais revenir quelques instants sur son parcours, parce que vous allez voir comment on peut basculer de l'ambition à la prétention jusqu'à la ruine la plus totale. Ça tient à peu de choses. Et vous voulez que je vous dise, ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient pas à Dieu, parce que Dieu vous a donné les clés, Dieu vous a donné les moyens, la réussite, Dieu vous a donné l'opportunité de réussir, mais soit vous l'acceptez, soit vous le refusez, soit vous êtes prétentieux, soit vous êtes ambitieux, ça fera toute la différence. Alors est-ce que vous voulez qu'on regarde un petit peu l'histoire de cet homme dans le livre de Daniel ? Je lis tout d'abord au chapitre 1er et au verset 1er ceci. « La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. » Nebuchadnezzar, Dieu va lui offrir des victoires assez exceptionnelles. Pas que sur le pays d'Israël, mais sur d'autres peuples, il va remporter de grandes victoires. Mais Dieu va lui expliquer pourquoi il lui avait donné du succès. Dites-moi, il y a un verset de la Bible qui dit « Au jour du malheur, réfléchis ». Mais j'ai envie de vous dire également « Au jour du bonheur, posez-vous la question ». Comment ça se fait que ça marche aussi bien ? Posez-vous la question. Alors Dieu va lui expliquer pourquoi. Et au chapitre 2, à partir du verset 1er, il est dit ceci. « La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des rêves, des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait pas dormir. » Verset 31. « Ô roi, tu regardais, voilà l'explication de ses rêves, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voici le songe, nous en donnons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. » Dieu lui en donne explication. Dieu l'a élevé au-dessus des autres hommes. Mais il y a d'autres questions qui se posent à ce moment-là. Pourquoi tant de privilèges ? Pourquoi tant de faveurs ? Ne vous êtes-vous jamais posé la question, pourquoi certains sont beaucoup plus intelligents que vous ? Moi, je me suis posé la question, vraiment pas par jalousie, en me disant, c'est quand même assez exceptionnel, le cerveau humain. Je crois vous l'avoir déjà dit, mais il y a des années en arrière, quelqu'un m'a offert un bouquin sur les mathématiques, les nombres, les maths. Et j'aime bien les chiffres, j'aime bien les nombres. Donc c'était les maths par rapport à l'univers, création de l'univers. Et pendant tout un été, j'ai lu le bouquin, fort intéressant d'ailleurs, ça revenait sur, c'était comme des biographies assez courtes de mathématiciens célèbres depuis 2000 ans, jusque de façon très contemporaine. Et ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que beaucoup de ces mathématiciens sont nés à quelques années d'intervalle et les découvertes de l'un ont permis à d'autres de s'appuyer dessus pour aller plus haut. C'est comme si on montait les étages de la fusée. Et je me suis régalé à la lecture de ce bouquin qui expliquait la création du monde, etc., pour revenir à l'origine, pour dire que tout est parti de quelque chose qui n'était pas plus gros que de la tête d'une épingle, en fait. Alors, mathématiquement, ça s'explique avec des formules, etc. Je me suis régalé à la lecture du bouquin. Mais je vais vous dire une chose, j'ai rien compris. Rien. C'est incroyable. J'aime les maths, j'ai aimé lire cela, et au bout du compte, je me dis, c'est fascinant, mais je pige rien. Mais c'est fascinant. Et je ne sais pas vous, mais quand vous regardez les astronomes qui vous expliquent ce qui se passe là-haut, les trous noirs, les trous bleus, enfin, tout ce qu'il y a là-haut, les puissards, etc., vous vous dites, mais quel cerveau ils ont ? Pas le même que le mien, c'est sûr. C'est impressionnant. Ils comprennent des choses et vous, vous avez l'impression... Alors, j'ai jamais eu l'impression d'être bête, tant mieux, hein. Mais j'ai quand même eu l'impression que c'était une bénédiction d'avoir des gens comme ça. Parce que grâce à eux, on avance, non ? Grâce à eux, on découvre des choses. Si aujourd'hui, nos voitures sont si performantes, si on a des objets du quotidien aussi utiles, c'est parce que le cerveau de quelques-uns était plus porté vers la découverte que le nôtre, et grâce à eux, notre vie va mieux. Alors pourquoi tant de privilèges pour Nebuchadnezzar ? Ça doit servir à quelqu'un, ça doit servir à quelques-uns, ça doit servir à d'autres, sinon ça ne sert à rien qu'il ait eu autant de domination. Dieu t'a donné le pouvoir, la sagesse, l'intelligence pour que tu domines sur les hommes. Mais pour faire quoi ? Pour faire d'eux des esclaves ? Certainement pas. Pour les mener à la ruine et puis pour enfreindre la liberté de conscience de ces gens-là ? Certainement pas. Mais pour les élever avec toi ? Ce que Nebuchadnezzar n'a manifestement pas compris immédiatement. Alors Dieu va lui expliquer cela au travers de ses rêves. La première statue qui était faite d'or, d'argent, de bronze, d'airain, pour finir par du fer et de l'argile dans les pieds. On s'aperçoit que dans l'explication, Daniel dira « La tête qui est toute en or, c'est toi ». Alors finalement, il était à la meilleure place, hein. Il vaut mieux être la tête que les pieds, hein. Non ? Alors moi, je préfère, hein. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je préfère quand même être tout en haut plutôt que tout en bas, parce que tout en bas, tout est sur vous, hein. Quand vous êtes tout en haut, vous dominez. Mais c'est là que se situe le cerveau aussi. Et Dieu est en train de dire à Nebuchadnezzar, je t'ai donné une bonne intelligence, un bon cerveau. Tu es un homme de guerre, tu as fait la guerre, tu as installé la paix d'une certaine manière, la Pax Romana, tu as voulu l'installer. Mais il faut que ça leur serve aussi. Ce n'est pas que pour toi. Aujourd'hui, il y a ce qui est devenu plutôt une mode, mais ça existe depuis toujours, hein. Mais chez nous, c'est plutôt assez récent, ce que l'on appelle la mode du piercing, où des personnes vont installer quelques bijoux, des boucles d'oreilles ou autres, pas que dans les oreilles, mais dans le nez ou dans la joue, enfin un peu sur la langue, enfin un peu partout. Bref. Mais quand on sait qu'il y a quelques centaines d'années de cela, en général, quand on perçait l'oreille ou une partie du corps de quelqu'un, c'était pour lui signifier « Hé, n'oublie jamais que tu es un esclave. » C'est fou, hein ? « N'oublie jamais que tu es un esclave. » Et d'ailleurs, il nous est même dit que quand l'esclave entrait dans une maison, même en Israël, et qu'il cherchait et qu'on lui offrait un affranchissement, et que cet homme ne voulait pas s'en aller, on lui perçait l'oreille sur les poteaux de la maison. Mais c'était une forme de grâce, puis pour dire, voilà, il appartient en homme libre à la maison. Il a été esclave, il n'est plus esclave. Aujourd'hui, c'est fou comme on a certainement oublié cela, hein, parce que tous ceux qui le font ne se revendiquent pas esclaves de qui que ce soit, évidemment, au contraire, c'est un vent de liberté, je fais ce que je veux. Et même des gens qui ont de l'âge, hein, qui seraient capables de dire hey, « j'aimerais bien ». La crise de la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, c'est curieux, hein, les modes comme cela qui passent. C'est curieux. Mais dans le fond, Nebuchadnezzar, si Dieu t'a élevé, ce n'est pas pour rendre les autres esclaves. C'est pour que tu domines sur eux, mais ne pourrais-tu pas leur faire du bien ? À une certaine époque, notre histoire de France a porté l'idée de ces seigneurs qui prenaient soin de ceux qui travaillaient en dehors du château Et quand il y avait une invasion, les gens venaient se réfugier dans le château. Et en échange de cette protection, ils travaillaient pour le Seigneur. Tout cela avait été déformé pour faire en sorte que le Seigneur avait tous les privilèges et les autres n'avaient rien. Ils mouraient dans le dénuement le plus total. On sait très bien que si Dieu donne de l'intelligence, des capacités, du pouvoir, c'est pour que ça serve. Je vais vous donner un verset qui est tellement beau, tellement exigeant, mais qui devrait certainement interpeller un homme comme Daniel. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Ça me fait penser à l'histoire d'Esther, cette femme, jeune femme qui deviendra reine. Alors qu'elle est sur le trône et qu'une situation se révèle comme très, très, très dangereuse pour tous ceux de sa race, donc tous ceux de cette race juive, il nous est dit qu'un de ses parents lui dira « Tu es là près du roi et il faut que tu ailles trouver le roi pour qu'il casse cet arrêté de destruction, de génocide contre notre peuple. » Et cette jeune femme hésitera un long moment en disant « Mais je ne peux pas aller trouver le roi » jusqu'à ce qu'elle entende son parent lui dire ceci, ce fameux Mardoché, « Écoute, si tu ne veux pas y aller toi, Dieu nous secourra d'une autre manière et toi tu mourras. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » C'est comme si Mardoché lui disait, dans le fond, Dieu t'a placé là, le plus près du roi, parce que Dieu veut prendre le cœur du roi comme de l'eau dans sa main. Et alors qu'un de ses conseillers lui a dit, « Allez, incline, incline de ce côté-là, incline vers la gauche et massacre ce peuple. Moi, je veux prendre la main du roi et je veux lui dire, non, tu iras dans l'autre sens et tu préserveras ce peuple. » Dieu fait ce qu'il veut avec les hommes. Mais pour que les hommes aient, on va dire, une certaine capacité d'action, un certain rayon d'action, alors il leur donne le pouvoir, l'intelligence, pour faire, pour faire. Et dans le fond, cet homme a du pouvoir et il peut faire tellement de bonnes choses. Ça, c'est Nebuchadnezzar l'ambitieux qui, devant tous les talents et devant toutes les portes qui se sont ouvertes pour lui, aurait dû prendre garde à cela et être vigilant, et finalement se tourner vers Dieu en disant « Bon, je tiens les clés du monde, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Sauf qu'il n'a pas fait ça, et c'est souvent ce qui arrive. Quand tout nous réussit, d'un coup, on a l'impression qu'on est comme Dieu, peut-être même meilleur que lui d'ailleurs. Et voilà que Nebuchadnezzar tombe dans l'orgueil, la vanité, la prétention. Et au chapitre 3, il nous est dit que le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées, plusieurs dizaines de mètres, large, ça faisait combien à peu près, une vingtaine de mètres, large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone, et le roi Nebuchadnezzar fit convoquer tous ses conseillers, juges, trésoriers, grands juges, gouverneurs, etc., avec un ordre très simple. Il va leur dire, voici ce qu'on vous ordonne. On s'adresse au peuple, nation, homme, de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion, des instruments à cordes, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Nebuchadnezzar, qu'est-ce qui t'a pris ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Pourquoi est-ce que tu agis de la sorte ? J'en ai connu quelques-uns qui, parce qu'ils avaient tout réussi, ont fini par tout perdre. Parce qu'ils ont cru que le succès, ils l'avaient gagné à la force de leurs bras, à la force, à la sueur de leur front. Ils ont cru que, dans le fond, ça avait marché une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, ça marcherait toujours. Et ils ont négligé que c'était un temps de grâce et que Dieu avait décidé, oui, de les bénir, parce que Dieu a décidé de vous bénir. Dieu a décidé de bénir tous les êtres humains, tous les hommes. Il cherche à les bénir les uns les autres, sauf qu'il y a un but derrière cela. Et Nebuchadnezzar passe à côté, se construit cette immense statue Et ce qui devait arriver arriva. C'est que, parce que l'orgueil s'est emparé de lui, certains vont refuser de se prosterner devant cette statue, notamment Daniel et d'autres. Alors, Nebuchadnezzar, irrité, furieux, donna l'ordre qu'on amenât Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ?» Pourtant, ils les estimaient, ces gens-là. Ils avaient été placés à des postes clés dans le royaume. C'était des gens en qui il avait confiance. Mais là, il est déçu. Il est terriblement déçu. Vous serez souvent déçus par les autres. Mais n'oubliez jamais que vous en avez déçu plus d'un. Ça mettra certainement un peu de mesure à vos propos. Oui, vous en avez déçu certainement plus que d'autres ne vous ont déçu certainement. Alors, est-ce de propos délibérés ? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de tous les instruments de musique, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, il leur donne une deuxième chance, hein, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu ? Avec un petit dé, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Nebuchadnezzar, mais tu es fou, tu es fou. Qui vous délivrera de ma main ? Nebuchadnezzar, tu es un homme, tu es un homme. Et il y a 2 jours de cela, nous étions à la vallée du Var et nous étions avec Christophe et Carla Fabregue. Et vendredi matin, Christophe avait un service funèbre des obsèques. Des obsèques d'une personnalité, d'une célébrité, un ancien joueur de rugby, Eric Melville, entre 52 et 55 ans, je ne sais plus exactement, qui a été sélectionné en équipe de France dans les années 90, qui est arrivé en France à 18 ans, un Sud-Africain, qui était déjà chrétien à cette époque-là, et qui depuis pas mal de temps fréquentait, enfin depuis qu'il est en France, il a fréquenté des églises évangéliques, et il a terminé sa carrière à Toulon, au RCT. Et donc, il fréquentait l'église de La Valette. Et à cette époque-là, quand il est arrivé en France, il a été pris en main par un certain Herrero. Ça vous dit quelque chose, cheveux très blancs, avec toujours un béret rouge comme ça, qui était aux obsèques d'ailleurs. Et tout le monde dit de cet homme que c'était un homme charmant, gentil, excessivement adorable, mais en tant que joueur de rugby, un exemple qui se donnait sans compter de façon exceptionnelle. Que s'est-il passé ? Le vendredi avant, ils avaient passé une soirée ensemble, ils avaient organisé une réunion dans la maison de cet homme. Les adolescents de l'église avaient fait des pizzas avec le fameux Eric, ils les avaient mis au travail, etc. Ils avaient profité de la piscine, c'était extraordinaire. Le dimanche, il est au culte avec sa famille, son plus jeune fils, son épouse. Le dimanche après-midi, il passe l'après-midi chez lui, il se repose. Le soir, il se met à table à la maison, tranquillement. Il n'était pas malade, il n'avait pas vu de médecin, pas de maladie, rien du tout. Et puis il se lève pour aller chercher quelque chose dans la voiture, il prend ses clés, il fait 3 pas, il tombe par terre, crise cardiaque foudroyante. Terminé. Dans l'éternité. Ça peut arriver si vite. Ça peut arriver si vite. Imprévisible, totalement imprévisible. Est-ce que ça pourrait se passer ? Est-ce que ça ne pourrait pas se passer comme ça pour nous aussi ? Oui, effectivement. Ça aurait pu se passer comme ça pour Nebuchadnezzar. Tu veux que les gens se prosternent devant toi, mais est-ce que tu as réalisé que d'un jour à l'autre, tu peux partir dans l'éternité, dans l'au-delà ? Ça sert à quoi ce que tu fais ? Ça sert à quoi ce que tu fais ? Dans le fond, il est devenu tellement orgueilleux, tellement prétentieux. L'orgueil s'est emparé de lui, mais j'ai presque envie de dire qu'il y a des raisons à cela. Parce que quelque part, c'est le plus fort. Qui lui résiste ? Personne. Personne. C'est le plus fort. C'est certainement... Lui qui domine, c'est le roi, et à sa parole, eh bien, c'est la vie ou c'est la mort. Hein. Si quelqu'un ne se prosterne pas, il sera jeté immédiatement dans un four crématoire. La fournaise ardente, c'est un four crématoire, littéralement. Il perd tout son sens. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, sa propre gloire. J'aimerais vous dire que quand on commence à ne regarder qu'à ses ambitions, on devient prétentieux, évidemment. Et c'est là où on tombe dans l'orgueil. La Bible dit que l'orgueil précède la ruine et la chute. Enfin, Nebuchadnezzar va être humilié quelque temps plus tard. On le retrouve au chapitre 4. Il va avoir encore un rêve. Et là, dans ce rêve, il voit un immense arbre. Et il y a des oiseaux qui viennent dans cet arbre niché. Et puis, il va apprendre quelque chose d'incroyable, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu. Il va y avoir une explication qui va être donnée encore une fois par Daniel. Et Daniel lui dit, écoute, fais très attention. Parce que si tu ne prends pas garde, si tu ne changes pas de voie, tu vas être coupé comme cet arbre a été coupé. Et tu vas être laissé à l'abandon dans les champs. Si tu ne prends pas garde, ton royaume, ton argent, ton or, ta prestance, tout ce que tu représentes, tout cela va être pris et tu seras comme un animal dans les champs. Lui, il entend ça, ben, ça ne lui fait rien, quoi. Ce n'est pas concret pour lui. Et on retrouve Nebuchadnezzar au chapitre 4, au verset 28. Au bout de 12 mois, ça faisait un an qu'il avait eu ce rêve. Alors, peut-être qu'il a été troublé les premiers jours. Et puis, une semaine passe, 15 jours, je suis toujours vivant. Un mois, deux mois, il ne s'est rien passé. 4 mois, 6 mois, on oublie. Au bout d'un an, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Rien que ça, hein. J'ai l'impression qu'on n'est pas loin de la Corée du Nord, hein, en termes de mégalomanie, finalement. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger et 7 ans. » passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. En un instant, il est devenu fou. Il a dû rentrer au palais, hein. Il a commencé à avoir des propos assez décousus, des paroles qui ne voulaient rien dire, etc. Les conseillers se sont rassemblés et ils ont dit « on ne peut plus rien faire avec lui, on a essayé de le soigner ». J'imagine, hein. Voilà, on a essayé de prendre soin de lui et on a compris qu'il était perdu pour les hommes, perdu pour l'humanité, perdu pour tout le monde, perdu pour lui-même. Donc on l'a remplacé. Quand je pense que certains s'imaginent irremplaçables, indispensables. Sans moi, vous n'en sortirez pas. Sans moi, vous n'y arriverez pas. Si je n'étais pas là, mais qu'est-ce que vous deviendriez, etc., etc., etc. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, vous êtes là. Demain, il peut vous enlever et vous n'existez plus. Comme l'herbe des champs. Elle pousse, elle sèche, elle est jetée au feu. Elle n'existe plus. Exactement pareil. On n'est pas en train de dire que la vie n'a pas de valeur. On est en train de dire qu'il faut prendre la vie à sa juste valeur. L'orgueil, c'est la grenouille qui voulait se faire bœuf. Hein. C'est le ballon rempli d'hélium qui va monter au ciel, puis à un moment donné, il va exploser. C'est obligé. C'est obligé. Finalement, Dieu l'avertit d'un danger imminent et Dieu lui donne la marche à suivre. Mais voyez-vous, se repentir, c'est toujours un acte volontaire. C'est un choix de vie. Je peux vous dire, cet après-midi, vous pouvez quitter ce lieu en sachant ce qu'il faut faire. Si vous ne voulez pas comprendre, si vous ne voulez pas le faire, ça ne changera rien à votre vie. Vous pouvez porter des croix, des crucifix, tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Ça ne vous protégera pas du jugement de Dieu, certainement pas. La repentance, c'est un acte volontaire. Et manifestement, il ne se repent pas. Il n'y a rien à faire, il ne se repent pas. Alors il s'est condamné lui-même et il s'est jeté lui-même dans la gueule du loup, hein. Et là, il a été brisé, il a été anéanti, il a été humilié, il a été jeté à la poubelle, en fait. Vous imaginez, certains font des concours, c'est assez horrible, hein, ils se laissent pousser les cheveux, ils ne se les coupent jamais, ou alors les ongles, ça s'entortille comme ça. C'est pas humain, quoi. C'est repoussant. Hein. Mais lui, il s'est retrouvé dans cet état-là. Lycanthropie, paraît-il. espèce de maladie où l'être humain se prend pour un animal, alors il va brouter de l'herbe, il ne parle plus. Une folie, une folie. Sauf que Nebuchadnezzar a goûté à la grâce de Dieu. J'en reviens à Ésaïe et je conclue avec cela. Ésaïe disait, du sommet de la tête à la plante des pieds, tout n'est que contusion, plaies vives, qui n'ont jamais été soignées, jamais. L'apôtre Paul insiste en disant, mais il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pervertis, tous sont égarés. Mais on l'a lu également, la puissance de Dieu, c'est l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut de quiconque croit. Alors la grâce de Dieu, elle était aussi pour Nebuchadnezzar. Et je pense que si elle a été pour lui, elle peut être largement pour nous, vous ne croyez pas ? Elle peut être largement pour nous. Et il nous est dit ceci, après le temps marqué, « Moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué, glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux, et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me fut rendue. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Et je fus rétabli dans mon royaume. Et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Il a tout compris, parce qu'il savait, mais il a dû passer par l'épreuve, il a dû passer par l'expérience pour comprendre. Il vous faut passer par l'expérience de la repentance. Il y avait encore de l'espoir pour lui, parce qu'il y avait encore un Dieu pour lui. Il y a encore un Dieu pour vous, il y a encore un Dieu qui vous aime. Il y a encore un Dieu qui peut vous venir en aide, qui peut vous relever. Il y a encore un Dieu capable de pardonner sa folie à Nebuchadnezzar et capable de pardonner la vôtre aussi, l'Évangile. Je crois que c'est vraiment la puissance et l'autorité de Dieu pour sauver. Et voyez-vous, la grâce, elle aura l'efficacité suffisante pour vous transformer. Elle vous dira de regarder à la croix là où Jésus meurt. Elle vous rappellera que le sang de Jésus purifie de tout péché. Elle vous le rappellera également que dans la mort de Jésus, il y a l'humanité tout entière qui peut aller jusqu'au salut. Seulement, il faut le vouloir. Dieu ne vous sauvera pas malgré vous et Dieu ne vous forcera pas à aller dans le ciel. Il ne vous obligera pas et il attend votre décision. Est-ce que vous allez faire la paix avec Dieu cet après-midi ? Est-ce que vous allez lui demander grâce ? Ne rêvez pas, on n'ira pas tous au paradis. Ne rêvez pas. Mais soyez plein d'espoir. Parce que le paradis, le ciel existe pour ceux qui se repentent. Vous pouvez vivre cette expérience cet après-midi et c'est ce que je vous souhaite. On pourrait prier un instant ensemble, s'incliner et demander à Dieu sa bénédiction et on va demander au Seigneur de vous bénir et d'intervenir dans votre vie. Seigneur, nous venons devant toi avec beaucoup de reconnaissance. Que ferions-nous sans toi ? Nous venons devant toi avec beaucoup de joie parce que tu es le Dieu de la grâce, tu es le Dieu de la liberté. Merci d'étendre ta main, merci de te glorifier, merci d'agir. Nous savons qui tu es, savons que tu es le Dieu qui bénit encore aujourd'hui. Étends ta main, fais grâce, au nom de Jésus, fais grâce, au nom de Jésus, fais grâce. Je veux croire que quelqu'un qui ne te connaît pas va te trouver cet après-midi, quelqu'un qui n'a pas pris conscience que le fait de ne pas s'être engagé avec toi le conduisait à la mort et à l'enfer pour l'éternité. Je prie que ce bien-aimé, cette personne-là que tu aimes par-dessus tout, enfin te trouve là maintenant et réalise tout ce que tu as fait pour elle. Merci de ta grâce, merci de ta bienveillance, merci de ton secours. Je te demande d'étendre ta bonne main, une main percée, mais une main forte, une main pleine de vie, parce que derrière la main de la grâce, il y a le secours divin. Continue ton œuvre, manifeste-toi au nom de Jésus, manifeste-toi au nom de Jésus.